RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket tous les mardis sur rmc.fr à télécharger. Vous l'attendez impatiemment parce que vous avez cette Dream Team qui vous régale chaque semaine sur toute l'actualité du basket. Aujourd'hui, nous sommes avec Alex Biggerstaff, Frédéric Weiss et Geoffrey Charpie. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Bonjour,
salut,
bonjour.
Salut Pierrot.
Et nous allons faire un numéro spécial San Antonio Spurs. Parce qu'ils sont pas mal les Spurs. Fred.
Oui, ils sont pas mal, effectivement, je suis d'accord. Non, ils sont plutôt pas trop mal.
D'enthousiasme.
Ils sont pas mal, c'est bien comme ça. Ils
jouer la qualif en play-off, au moins en play-in.
En play-in. On va peut-être pas s'enflammer trop quand même.
Non, mais il y a quand même 2-3 satisfactions dans cette équipe là. On est content. Stéphane Cassel, vous l'avez pas vu venir celui-là, Stéphane Cassel.
Bien sûr que si, Pierrot.
Bah, quand
si,
même. Il y a des gens qui suivent la NCAA et Alex.
Alex, c'est vrai que c'est spécialiste du basket universitaire.
Mais oui, Stéphane Château, on l'a vu depuis longtemps.
On l'a vu depuis longtemps celui-là.
Ah, c'est pas un shooter, mais c'est un très bon petit joueur.
Hein. Ça, c'est sûr, c'est pas un shooter par contre.
Est-ce que c'est pas meilleur que Rizaché? Est-ce que ça méritait pas d'être drafté au-dessus?
D'entrée de jeu.
Mais meilleur pour la NBA, hein, je veux dire, formaté déjà, American style, tu vois.
Plus près, plus tôt, peut-être. Mais sur plus le potentiel, je pense que j'aurais pris Rizaché.
D'accord, très bien. Alors, voici le programme de ce spécial San Antonio Spurs. Faut-il prendre les Spurs au sérieux désormais, comme l'a annoncé Victor Wembanyama? Victor Wembanyama, ce sera notre deuxième débat. Son début de saison est-il satisfaisant pour vous? Et puis, nous allons parler d'une légende, Fred, parce qu'il faut rendre hommage aux légendes qui sont parfois un peu moins flashy. David Robinson, la légende des Spurs, voilà, l'amiral.
Ouais, moins flashy, t'es un peu dur. Hein.
Un moment moins flashy, oui, que les Kobe Bryant.
Après, flashy, ça n'a jamais été le style San Antonio. Hein,
oui, c'est ça, exactement. Déjà tous les joueurs, mais c'est quand même plus flashy qu'un Duncan, par exemple.
Jason Tatum, c'est un joueur flashy.
Ah bah oui.
Jason Tatum, c'est un bon joueur flashy.
Bien sûr. Ouais, c'est
un bon joueur.
Vous voulez dire le deuxième meilleur joueur de Boston? Oui, c'est vrai.
Est-ce que t'aimes bien, tiens, toi, le ronchon, Fred, je me faisais la réflexion en regardant des matchs ce matin. Tyrese Haliburton, tu dois pas aimer, toi.
Surtout cette saison.
Non, alors cette saison, il y a beaucoup de mal, mais non, c'est vrai que c'est pas mon joueur préféré, c'est le moins, moins qu'on puisse dire.
Ok, très bien. Bon, David Robinson, tu aimes en revanche?
Évidemment, bien sûr.
Et alors, ce sera un quiz 100% San Antonio Spurs, voilà, je vous en dis pas plus, mais là vraiment, on va falloir connaître les Spurs. D'hier et d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire.
Ouf.
Ah ouf.
Ouais, si tu me parles des quartiers de San Antonio, Pierre, je quitte le plateau. Hein.
Ça pourrait, tiens, c'est une bonne question, je vais la rajouter.
Il va la rajouter.
Je vais faire des recherches pendant le podcast, pendant qu'on enregistre les premiers débats. Allez, c'est parti, spécial San Antonio Spurs Basket Time, tous les mardis sur rmc.fr.
We need to talk about the San Antonio Spurs. They were one of the more interesting teams in the entire NBA.
Wembanyama spinning it, Draymond, Barnes slips through, scores it, and a foul. And then Castle comes up with a steal. Wembanyama the pass, Barnes the layup. CP3 the spin, the dish, Sohan, Sohan, floating, another dish to Sohan, Sohan, again, plus a foul, Wemby, to Sohan, the connection,
what a pass,
Trey Jones, oh, Keldon, he took a body,
Champagne with a three,
got it, Vassell pulling up, and connecting for three, Castle, out of Barnes. Castle cuts. Switches hands. The magic of Steph Castle.
Oh, beautiful finish.
Alors, les Spurs ont un bilan positif, 9 victoires et 8 défaites. Ils sont 10e à l'ouest à une victoire de Dallas qui a gagné cette nuit. Surtout, ils ont gagné des matchs sans leurs meilleurs joueurs. Wembanyama a manqué des matchs, Sohan, Devin Vassell. Pour l'instant, ils n'ont absolument pas eu leur effectif au complet. Et puis, il y a même des victoires de prestige contre Minnesota, OKC, Golden State. Donc, est-ce qu'on prend les Spurs au sérieux dès cette saison? C'est la question qu'on vous pose, Alex. Dans le détail, est-ce que le bilan est si bon? Parce qu'il faut toujours quand même regarder les adversaires. Hein.
Et oui, parce
on a croisé la route de Utah notamment, qui est pas en grande forme en ce moment.
Mais oui, il y a eu un mauvais début de saison. C'est à se demander s'il n'y a pas eu un déclic après avoir démarré par 5 défaites sur les 8 premiers matchs. San Antonio semblait abonner à une nouvelle saison en fond de classement de la Conférence Ouest, un peu comme la saison dernière où ils avaient terminé 14e sur 15 avec 22 victoires en 82 matchs. Mais depuis un succès 116-96 contre Sacramento le 12 novembre, les Texans ont enchaîné 5 succès sur leurs 7 derniers matchs, dont 3 consécutives séries en cours. 3 victoires à domicile en une semaine pour les Spurs, c'est une première depuis janvier 2021, et pas contre n'importe qui. Alors t'as cité le Jazz, Pierrot, mais il y a aussi eu le Thunder, deuxième à l'ouest, et les Warriors, leaders de la conférence, soit donc ces deux leaders. D'ailleurs, en parlant de classement, San Antonio est remonté donc à la 10e place à l'ouest avec 9 victoires en 17 matchs, et grâce à cette série, se retrouve même dans le wagon pour tenter de jouer les play-in, comme disait Fred tout à l'heure.
Alors, est-ce qu'on prend les Spurs au sérieux ? Bon, t'as pas l'air de t'enflammer trop pour le moment, Fred. Hein ?
Non, mais alors ça dépend ce que ça veut dire prendre au sérieux. C'est-à-dire que est-ce que maintenant, quand on joue les Spurs, on est un peu plus concentré ? Est-ce qu'on est un peu plus motivé ? Est-ce qu'on a envie de jouer vraiment ? Parce qu'on se dit, cette équipe, si on n'est pas sérieux, on peut perdre. Évidemment, oui, on les prend plus au sérieux.
C'est une équipe qui fait partie de la compétition, en fait, cette
voilà,
saison, contrairement à l'année dernière.
Quoi. C'est pas l'année dernière où tu jouais contre les Spurs, tu disais, ouais, bon, c'est bon, c'est une petite plaisanterie, on va gagner assez facilement. Non, c'est une équipe qui est sérieuse, c'est une équipe qui est bien construite. Quand tu as CP3, en général, ton équipe progresse, joue mieux. Quand Harrison Barnes.
Bon, elle gagne pas, mais elle progresse.
Elle progresse, elle joue mieux, surtout. Et ça, c'est très important, surtout quand tu as des bons joueurs. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a CP3 qui est arrivé, mais Harrison Barnes, qui est joueur de la semaine, là. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui est important pour le collectif, qui apporte aussi signature un petit peu sous-côté. Et puis, tu as des mecs qui progressent, bien sûr. Tu as bien sûr Wemby, bien sûr, tu as eu Sohan qui fait un début de saison incroyable. Tu as Vassell qui, même s'il a été blessé au début, est en train de progresser. Et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Hein. Castle, c'est très performant directement.
Ouais, parce que rookie, drafté au 4e, mais rookie qu'on n'attendait pas forcément tout de suite à ce niveau-là. Geoffrey Charpille.
Bah moi, je rejoins un petit peu Fred sur ce qu'il a dit. Est-ce qu'on maintenant on prend les Spurs au sérieux ? Oui, évidemment. C'est plus les Spurs de l'année dernière. C'est comme un peu l'année dernière quand on allait jouer contre Détroit, on savait qu'on allait gagner. Quand on allait jouer contre les Spurs l'année dernière, on allait gagner. Là, on n'est sûr de rien, surtout qu'ils ont réussi à avoir des victoires de prestige, notamment la victoire contre les Warriors. Ils étaient menés 80-64 en fin de troisième quart-temps. Et puis surtout, ils ont eu ces 9 victoires avec jamais un 5 majeur au complet. Donc moi, j'étais très pessimiste sur l'idée quand Victor Wembanyama est arrivé chez les Spurs. Tout le monde n'arrêtait pas de dire il faut laisser du temps au temps, laisser cette équipe progresser. Je me disais non, mais de toute façon, ils partent de trop bas. Ils n'arriveront jamais à jouer les playoffs. Je le pense toujours. Ils n'arriveront pas à jouer les playoffs cette année parce que de toute façon en conférence ouest c'est trop fort cette année pour que les Spurs y arrivent, mais dès qu'on va jouer San Antonio, oui, c'est une équipe à prendre au sérieux, surtout avec l'absence de Greg Popovich. Je pensais que cette équipe allait s'écrouler, et ben pas du tout, donc bravo à eux, mais ce sera trop juste pour moi encore pour jouer les playoffs et peut-être même les play-in cette saison.
Pas de play-off, Alex ?
Non, je ne peux pas aller contre ça. Il n'y aura pas de play-off. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, il faut les prendre au sérieux tout bonnement parce que c'est une équipe qui s'améliore par rapport à la saison dernière, qui embête pas mal d'équipes, mais il faut se rendre compte d'une réalité, c'est que plus tu avances dans une saison NBA, plus ça devient dur. Donc les Spurs, si tu me poses la question au mois de mars prochain, je ne suis pas sûr qu'on réponde de la même manière, évidemment. Fred avait raison de souligner que voilà, il y a eu des apports de mecs importants dans cette équipe et des cadres, en fait, des mecs d'expérience. Harrison Barnes, CP3, ça fait une différence énorme quand il s'agit d'aligner des victoires. Stephen Castle, il a un peu cette culture-là et c'est pour ça que j'aime bien ce choix de draft aussi, même si c'est pas un bon shooter du tout. C'est quelqu'un qui a remporté un titre universitaire. Il arrive de UConn, il sait ce que c'est de gagner des matchs aussi et il sait ce que c'est d'avoir l'envie. Et on l'a vu, ça se transmet quand même. Wemby loupe des matchs, c'est une équipe qui arrive quand même à gagner, qui arrive quand même à bien défendre. On l'a vu face aux Warriors, ils ont tenu à 95 points, moins de 95 points. Ça a été rare cette saison, donc c'est une équipe à prendre au sérieux maintenant. Est-ce qu'elle sera dans la lutte pour les playoffs ? Je réponds comme mes camarades, non.
Non, alors vous vous dites non. Il ne faut pas oublier que la bonne surprise de voir les playoffs compétitifs, elle existe aussi dans l'autre sens. Hein. La NBA, parfois, tu as des énormes surprises et il y a des équipes qui ne tournent pas. Pour l'instant, Denver, c'est pas foufou. Enfin, bon, c'est vrai que Jokic a raté des matchs, mais sans Jokic, ils sont nuls. Minnesota, le bilan est pas très bon, alors qu'ils ont quand même sur le papier une équipe pour jouer presque le titre. Je sais pas, il y a cette dimension-là quand même. Hein. En NBA, une saison, ça va très très vite. Et la belle surprise, je sais pas ce qui les empêche aujourd'hui de rêver au play-in. Je vois vraiment pas. Enfin, vous êtes sceptique pour rien parce que, qui imaginait les Lakers 4e, je sais pas. Il y a un début de saison qui est très surprenant, je trouve.
Non, mais tu sais pourquoi on est sceptique ? C'est assez simple. C'est parce que c'est une équipe jeune et elle nous a habitués à bien commencer les matchs et parfois se déliter. Bien commencer les deuxièmes mi-temps et se déliter. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression, mais je te rejoins un petit peu, hein. On s'avance peut-être un petit peu, parce que sur les deux matchs qui gagnent sans Wemby, t'as 7 ou 8 joueurs qui marquent des points. C'est-à-dire que l'équipe dans son entièreté est dangereuse. Et je te rejoins dans le sens où c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. À l'instant T, on peut te donner un constat que cette équipe est une bonne équipe, mais que ce n'est pas une équipe du top. Elle est au-dessus de ce qu'on imaginait.
C'est le contexte Popovic, je pense, qui vient jouer sur cette bonne série aussi.
Oui, certainement.
Pourquoi,
ça a remotivé et remobilisé tout le monde.
Parce que ça transcende les joueurs de devoir se battre pour leur coach, pour la figure de la franchise, de la ville.
Ça ne te transforme pas en joueur All-Star. Hein.
Non, mais ça te donne quelques victoires en plus, Pierrot.
Ouais, mais y a aussi les joueurs, il faut aussi reconnaître la réalité, c'est qu'il y a des joueurs qui ont progressé. Un Champagny, par exemple. L'année dernière, je me disais.
T'étais prêt à le sabrer.
Hein, ouais, franchement, ouais. On sabrait le Champagny sans problème.
Il y a beaucoup de joueurs en fait intéressants, et c'est ça qui est très rassurant. C'est-à-dire que, je sais pas, l'an dernier, j'ai trouvé catastrophique. Il n'y avait rien d'intéressant. Et cette équipe, elle commence à ressembler à ce qu'était Détroit, voire OKC, il y a quelques années. C'est-à-dire, il y a du potentiel et tu le sens en fait. Ça y est, quoi. C'est plus simplement un numéro 1 de draft avec des gars autour. Il y a autre chose, Vassell, Keldon Johnson, Castle, Champagny. Il y en a un certain nombre quand même. Vous avez cité les anciens Harrison Barnes, CP3. Ça fait quelques joueurs quand même.
Parce qu'il y a du bon boulot. Il y a du bon boulot de fait. Ça reste San Antonio. Hein. Faut pas qu'on soit surpris non plus. C'est une des franchises les plus stables de la NBA. C'est une période de transition. Ça fait plusieurs saisons dans le podcast qu'on le dit pour eux. L'arrivée d'un alien comme Victor, si tu arrives à mettre de bons éléments autour, c'est vrai que ça va repartir peut-être un petit peu plus vite qu'ailleurs.
Oui, mais faut pas sous-estimer quand même les autres équipes aussi. Il y a beaucoup d'équipes,
Sacramento, c'est décevant. Phoenix, c'est décevant.
C'est pour ça que je dis qu'une saison est longue aussi.
Exactement. C'est un marathon, c'est pas un sprint, hein, une saison NBA. Donc là, à l'instant T, il y a des équipes qui sous-performent.
Puis Pierre,
voir ce que ça donne si elles arrivent à avoir leur vrai niveau.
Puis Pierre a parlé de Minnesota tout à l'heure. Pour l'instant, ils sont derrière les Spurs. En début de saison, jamais personne n'aurait imaginé que les Wolves, au bout de 20 matchs. Exactement. Donc pour moi, les Spurs, là, ils sont 10e. Et quand Minnesota va retrouver son vrai niveau, quand les Kings vont retrouver leur véritable niveau et que les équipes devant vont progresser, comme les Suns ou les Grizzlies,
Memphis, je pense qu'ils vont vite. Ils sont dans la première moitié. Je veux dire, ces équipes-là. C'est inversement, on les attend pas aussi haut, tu vois.
Memphis avec le retour de Morant cette saison.
Il faut se rappeler quand même les saisons que faisait Memphis quand il y avait Morant et quand il y avait toute l'équipe. Quand même. 3, ouais.
Bon, après, il y a un truc qui m'interroge quand même, Fred, quand tu as dit quand CP3 arrive, tu joues mieux. Soit, mais il va pas s'éterniser, le garçon. Je sais pas combien de temps il a signé, mais. C'est quand même les dernières saisons.
Il va mettre des joueurs sur les rails. Stéphane Castle, pour moi, c'est merveilleux de pouvoir jouer avec CP3. Stéphane Castle, c'est un 1-2. Mais quand il joue 1, quand tu as à côté de toi un mec à l'entraînement, pendant les matchs, qui t'explique, qui parle avec toi, qui te fait comprendre le jeu NBA, qui te fait progresser à vitesse grand V, c'est un point positif énorme. Et attends, il va pas s'éterniser.
Dans une perspective de construire,
tu construis pas sur une saison, je suis d'accord avec toi, sauf que CP3, il a 10 points, 8,5 passes.
Puis il n'a pas l'air dans un état catastrophique.
Il n'a pas l'air catastrophique. Moi, l'année dernière, il m'inquiétait beaucoup plus que cette année, concrètement.
Yes. Mais grosso modo, il faudra quand même trouver un meneur de haut niveau pour aller chercher ensuite un titre à moyen terme.
Long terme.
En théorie, est-ce que sans Stéphane Castle ne va pas devenir un meneur incroyable?
Ah oui, mais vous venez de me dire qu'il ne savait pas shooter.
Oui, mais justement, tout ça travaille, mais il sait faire tellement d'autres choses.
C'est un problème quand même.
Oui, non, mais c'est quand même le plus simple à travailler, le shoot. Ah bon, la lecture de jeu, la défense, l'envie, ça s'apprend pas.
Après, regarde, il défend très très bien, on l'a vu sur Steph Curry. T'as des meneurs comme ça qui n'étaient jamais réputés pour leur qualité de shoot et qui défendaient très bien, qui sont bien sortis en NBA.
Mais on ne parle pas de bien s'en sortir là, on parle d'accompagner un alien qui est Victor Wembanyama pour être champion NBA, c'est ça le défi.
Oui, mais il y a David Vassell aussi qui est à côté. Enfin, tu vois, il ne faut pas oublier lui non plus. Il y a Jeremy Sohan, évidemment.
Après, c'est vrai que Sohan, on n'en a pas parlé, mais il avait très bien démarré sa saison avant de se blesser.
Sohan, sa blessure est. C'est un peu embêtant quand même.
Mais on avait décidé de lui enlever le ballon des mains par rapport à la saison dernière où c'était le cirque, c'était n'importe bien quoi. De lui enlever ce poids-là et de le mettre à la main, c'était évidemment n'importe quoi. Et cette saison, on l'a vu quand il se cadre et qu'il se concentre sur la tâche qu'il a à faire. Voilà, c'est super, c'est un vrai plus pour Victor.
Après, il y a une stat très intéressante avec l'arrivée de Chris Paul. L'année dernière, les Spurs, offensivement, c'était un peu on donne le ballon à Victor et démerde-toi, mon garçon, sors-nous quelque chose de merveilleux. Là, cette année, avec Chris Paul, ils sont 7e aux passes décisives sur l'ensemble de la ligue. Ils en font plus de 28 par match et je trouve ça merveilleux. Chris Paul, offensivement, bien évidemment, la relation avec Victor, elle est encore à perfectionner. Ils peuvent encore aller plus loin. Mais tu parlais du QI basket tout à l'heure de Chris Paul, Fred. C'est offensivement et aussi défensivement, parce que les Spurs, cette année, c'est la 6e meilleure équipe de la Ligue. Donc, bien évidemment que c'est très encourageant. L'arrivée de Chris Paul, il y a de très bons joueurs, mais encore un peu de patience. Mais l'arrivée de Chris Paul, c'est en fait les Spurs, sur certaines séquences, pas sur 48 minutes d'un match NBA, c'est beau à voir jouer, c'est plaisant, ça coupe dans le dos, il y a des backdoors,
ça change un petit peu. Hein.
Oui,
c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment pas beau. Hein.
C'est pas que sur le terrain, l'arrivée de Chris Paul.
L'année dernière, on les regardait pas, de toute façon, on va pas se mentir, Fred. Hein.
Non, mais personne
ne regardait la highlight de Victor.
Honnêtement, regarder un match des Spurs l'année dernière, c'était une torture, c'était un film d'horreur.
Bon, avant de passer à Victor lui-même, donnez-moi le 5 majeur des Spurs au complet, quand tout le monde est là. Parce qu'il y a du monde finalement. Hein.
Ouais, franchement, c'est pas si évident que ça. Hein. Parce que moi, je sais pas, tu mets Chris Paul déjà, je pense. Mm-hmm. Je pense que tu mets Stephen Castle.
En deux, tu mets Castle titulaire.
Moi, je le mets titulaire, ouais. J'aime bien cette association.
Tu peux les associer les deux.
J'adore cette association. Je mets Devin Vassell en 3.
Ok.
Je mets en 4 Jérémy Sohan.
Et Victor en
5.
Okay.
Ça te laisse Harrison Barnes sur le banc, Champagny sur le banc. Enfin, t'as une équipe.
Keldon Johnson aussi.
Oui, mais Keldon Johnson, il sort déjà du banc. Donc lui, pour
oui,
lui, c'est
sur. Oui, mais est-ce que c'est pas provisoire, ça?
Non. Je trouve que son apport en sortie de banc, elle est parfaite.
Et Harrison Barnes, que tu sors du 5, c'est pas problématique, ça? C'est un gentil garçon.
C'est un ancien qui vient pour aider. Je pense qu'en sortie de banc aussi, ça.
Oui,
ça
te structure, justement, il a quand même l'expérience.
On a vu. Quand Victor a été blessé, ses stats ont tout de suite gonflé. Harrison Barnes, ça prouve à quel point il est facile en fait pour venir combler les brèches quand il faut. Donc c'est ça, les joueurs d'expérience.
Oui, c'est ça.
Très bien. Bon, donc vous me faites Chris Paul, Stephen Castle, Vassell, Sohan et Wembanyama, 5 majeurs.
Ça a un peu de gueule, hein, quand même. Et surtout, ton banc est plutôt sympa aussi.
Basket Time spécial San Antonio Spurs, ça continue. Et bien sûr, on reparle de Victor Wembanyama.
Let me pull up 3. You bet. Welcome back. Wembanyama, pump fake. Drives and scores. Wembanyama, the fake. Two-step drive. Lays it.
That was rude, Victor.
Oh, and Wemby just rejected Green as he went for a poster.
Oh, not on my watch.
Wemby with another block. That's 9. Wemby fires. And he hits another 3. Courtois, 4 threes for Wemby. Puts in another 3. That's his 5th, 6th three.
Alors, le début de saison de Victor Wembanyama est-il satisfaisant? Ça donne quoi, Alex, le début de saison de Wemby?
Il est satisfaisant. Il était en dessous de ses standards de la saison dernière sur les premiers matchs, mais au-delà des chiffres, il paraissait tout sauf tranchant. En fait, il était dépassé à l'image de son équipe, comme s'il ne réalisait pas que la saison avait démarré. Puis quand les tirs ont commencé à tomber dedans, San Antonio semblait aller mieux aussi. Contre Washington, le 14 novembre dernier, Wemby réalise une performance à couper le souffle. 50 points inscrits, les Spurs qui l'emportent. Record en carrière, 4e plus jeune joueur de l'histoire a marqué 50 points lors d'un match NBA. Premier pivot de cet âge à atteindre cette marque-là dans la Ligue aussi. Le New York Times évoque la légende grandissante. On a cesse de le rappeler, mais avec Wemby, on en est qu'au début et c'est vertigineux. Bien sûr qu'on vise les playoffs, a déclaré le Français après la victoire contre Golden State. On le rappelle, 23 points de moyenne, 10 rebonds, plus de 3 passes, plus de 3 contres et à plus de 33% de réussite à 3 points.
Alors, est-ce qu'il est dans les standards que tu attendais, Fred, ou est-ce que tu attendais mieux?
Alors, je trouve que Alex a bien résumé exactement ce qu'il en est de ma vision et de la vision de beaucoup de Victor Wembanyama cette année. Début de saison, je l'ai trouvé complètement à côté de ses pompes. Mou, soft, dans les mauvais choix, à chaque fois. Mais je trouve que là, il est sur une phase tellement ascendante. Sur les 5 derniers matchs, il a plus de 32 points, plus de 11 rebonds et plus de 4,4 passes. Ça veut dire qu'en gros, maintenant, il a tout changé. Alors oui, certains diront, maintenant, il commence à mettre les shoots à 3 points et forcément, ça aide. Évidemment que ça aide. Et je trouve que sa décision de prendre presque 9 shoots à 3 points par match, pour moi, c'est un peu trop. Je suis désolé.
Ça représente, c'est catastrophique.
Ça représente la moitié de ses shoots. Et pour moi, c'est oui, mais c'est un euphémisme.
Ah, d'accord.
Donc, effectivement, pour moi, c'est pas une bonne décision de prendre la moitié de ses shoots à 3 points. Mais sur l'attitude, sur l'envie, sur ce qui dégage. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir, en tous les cas. C'est vrai que dans cette équipe, maintenant, c'est beaucoup plus équilibré. C'est plus lui qui doit sauver tout le monde, parce que cette équipe est capable de marquer des points, je te l'ai dit. Hein. Il y a 7 joueurs et 8 joueurs qui ont marqué des plus de 10 points sur les 2 victoires qu'ils ont fait sans lui. Donc, ça veut dire qu'il y a une équipe autour de lui. Donc, je trouve que son attitude, la façon dont l'équipe joue, cette capacité toujours de dissuasion défensive qui est incroyable, bah, je trouve que là, voilà, on a le Wemby qu'on veut, même si, encore une fois, je me répète, beaucoup trop de shoot à 3 points.
Alors moi je sais que le Wemby que veut Geoffrey Charpie, c'est le Wemby près du cercle.
Absolument.
Près du
oui, cercle, mais on est en 2024 ouais, et Geoffrey Charpie joue en noir et blanc encore.
Encore une fois Fred, je vais me répéter, hein, je l'ai dit il y a plusieurs semaines dans ce podcast, il fait 2m24 en fait. En début de saison, il prenait plus de la moitié de ses tirs derrière la ligne à 3 points.
Il prend toujours.
Pourquoi
la moitié.
Tu fais ça ? Quelles en sont les raisons? Oui, mais il a dit qu'il en sélectionnait des meilleurs. Il a dit, Victor Wembanyama, ce sont ses propos. Je vais pas arrêter de tirer. Je vais en tirer autant, mais je vais peut-être essayer d'avoir de meilleures positions. Et en fait, c'est ça qui m'a choqué dans son début de saison. J'avais l'impression qu'il forçait tout offensivement. Rien n'était fluide. Tu l'as dit sur certaines séquences, Victor. Il avait du mal à se déplacer. Il y avait de la fatigue. Il était pas bon sur les aides. Il était en retard surtout. Et au début de saison, vraiment, j'étais très inquiet. D'un côté défensivement et d'un autre côté offensivement, je me suis dit, mais Victor, arrête de tirer à 3 points. En fait, tu n'es pas un poste 2, tu es un alien. Voilà. On ne sait pas quel poste tu es, mais tu n'es pas un shooter à 3 points. Donc rapproche-toi du cercle, crée-toi un petit move.
Surtout que son ascension a commencé quand Pop l'a mis pivot.
Exactement. Voilà, bravo Pierre, tu connais le basket, c'est très fort.
Stretch five, il a cette capacité à jouer 5 bien sûr, mais il peut pas poster. Vous avez vu son physique, ouais. Il peut pas poster. Donc ça peut être que sur des shoots en turnaround plutôt lointain.
Oui, mais qu'il aille dans le périmètre.
Oui, mais c'est difficile, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que physiquement c'est pas Shaquille O'Neal, il peut pas faire des post-ups comme ça et être aussi près.
Bien évidemment, donc, mais il y a quand même une différence entre Shaquille O'Neal et se prendre pour Stephen Curry à chaque match.
Oui, ben écoute, quand il met plus de 50% à 3 points, personne ne dira rien.
Évidemment.
Alors est-ce que tu peux augmenter tes stats à 3 points de manière significative? Parce que au début, il était en gros quoi, à 30%, en dessous de 30.
Ouais, là, sur les 10 derniers matchs, il est à 41% à 3 points.
Voilà, mais est-ce que ça, là, je vous pose une question sans arrière-pensée, sans avoir la réponse, hein, est-ce que vraiment tu peux progresser et devenir un joueur à 40% de manière régulière tout au long de ta carrière?
Oui, parce que c'est un bosseur. Bien sûr, oui, parce que en fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure sur Castle, le shoot, c'est un truc que tu peux travailler. Donc lui, il va travailler dessus. Pop lui fait confiance par rapport à ça. Donc j'imagine qu'ils font des séances de shoot. Il va progresser. Mais je rejoins Geoffrey, c'est sur la sélection des shoots qu'il y avait un vrai problème.
Ouais, mais t'es obligé de passer par là.
On
a une pépite, là. On n'a pas arrêté de le dire depuis 4 ans qu'on a un truc extraordinaire sous la main.
La moitié
pourquoi
c'est
le casser
toi, Alex, t'es pour qu'il continue de se chauffer à 3 points sur ses premières années jusqu'à atteindre un niveau qui lui permettra de tout faire.
Je suis pour le laisser se développer dans quoi il est à l'aise. Et tant qu'il va me faire le travail en défense, et il l'a fait face aux Warriors, il fait 4 sur 13 à 3 points face aux Warriors, il gagne.
C'est pas donc, suffisant juste la défense.
Tant qu'il fait le boulot en défense, c'est pas grave.
Alex, t'as pas
à 20 piges, tu le laisses tranquille.
Tu peux pas, c'est une pépite, c'est toi qui l'as dit, tu peux pas dire ça me suffit. Qu'il soit bon en défense.
Donc, il est à l'aise dans ce rôle-là.
Mais oui.
Tu vas pas le forcer à aller à l'intérieur. Mais, tu l'as dit toi-même.
Mais je suis complètement d'accord.
Il sait pas faire, il peut pas faire.
Il peut pas faire parce que physiquement, il peut pas faire. Je suis d'accord.
Il est pas comme ça.
Mais je suis d'accord. Moi, ça me dérange pas qu'il prenne des shoots. C'est juste que parfois, il arrive, il a fait un dribble, il est au logo, il prend un shoot à 3 points et il le rate. Et ben, je suis désolé.
Oui, mais en fait, autant qu'il le fasse l'année dernière avec une équipe entre guillemets en carton, cette année il y a des bons joueurs autour de lui, ils sont tous en développement.
C'est le go-to guy.
Mais lui aussi il est en développement. Arrêtez de me faire croire qu'il a 30 piges, Victor Wembanyama, il est en développement aussi.
Mais arrête, voilà, comme ça, en plus, moi je suis d'accord avec toi. C'est
parce que vous êtes sévère, vous êtes exigeant avec lui.
Mais évidemment qu'on est exigeant. Et pourquoi? Parce que tout le monde l'est.
Non,
tout le monde
est exigeant. C'est ça que
bien sûr, parce qu'on est français. Évidemment, c'est notre français, on a envie qu'il soit encore plus performant. Mais franchement, à l'instant T, critiquer le début de saison de Victor Wembanyama, à part Geoffrey Charpie,
non, je le critique pas. J'ai été très très inquiet sur les premiers matchs parce que tu l'as dit toi-même, exactement. Il m'a rassuré, mais tu peux encore faire mieux. Voilà, t'es dans un apprentissage.
Vous voulez la perfection absolue sur un gamin de 20 ans.
Mais c'est peut-être
impossible.
Le joueur qui va révolutionner le monde du basket.
Il fait un double compte sur Domantas Sabonis. Sabonis, on se demande encore.
Non, il a fait
fantastique.
Celui-là, il voilà. est vraiment
mais appuie-toi sur tes qualités.
Mais t'as vu, en fait, il aime les révolutions, mais en fait, quand un mec shoot 3 à 3 points, il trouve que c'est une révolution. Ah. Bah,
il aime les révolutions. Il veut une machine, en fait.
C'est une révolution sans changement de
mouvement. Donc ça change.
Donc Victor, cette année, il tourne à 33% de réussite à 3 points, et c'est super.
J'étais Alex, je comprends un peu Geoffrey, parce que quand tu regardes des matchs en entier et que t'as pas que les highlights, des fois tu fais vas-y arrête, c'est bon, arrête là de balancer tes briques parce que ça commence à nous fatiguer, t'en as raté 8, arrête. Et ça c'est là pour le coup, je parle plus en tant qu'amateur de sport et pas de spécialiste de basket. Mais
je dis la même chose chez moi, Pierre.
Donc je comprends un peu ce que veut dire, Geoffrey. En revanche, moi la question que je me pose, c'est pour ça que je vous demandais si on peut s'améliorer à 3 points, c'est est-ce que Victor, aujourd'hui, il est assez suffisamment fort pour se dire pendant 2 ou 3 saisons, je travaille et je progresse à 3 points, quitte à faire parfois des matchs horribles, et dans 2-3 saisons, je serai une bête injouable, parce que non seulement je défoncerai tout le monde près du cercle, parce que défensivement je suis monstrueux, mais en plus je mettrai des tirs longue distance, et je saurai mettre des tirs à moyenne distance. Est-ce que c'est ça le plan, en fait ? Est-ce que vraiment tout est programmé comme ça ?
Oui, c'est un monde dans lequel je veux vivre, Pierre.
Non, mais moi je crois complètement à ce monde. Hein. Moi je pense D'accord. que Victor est ce
Donc
genre de mec capable d'accepter...
2-3 purges à 3 points pendant un ou deux ans.
Pierre, ça va toujours très très vite pour Victor Wembanyama, et je me répète, sur les 5 derniers matchs, son pourcentage il est très bon.
Mais bon, attends,
l'adresse est fluctuante.
Le shoot, tu l'évalues pas sur 5 matchs.
Attends, l'adresse est fluctuante, et ça je peux que te le concéder, sauf que ça veut dire qu'il y a des pics d'adresse, ça veut dire qu'il est capable d'en mettre, et que maintenant il a besoin de gagner en régularité, c'est tout, en fait.
Déjà, on peut être d'accord pour dire qu'il a progressé par rapport à la saison dernière.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, évidemment, une seule chose, quand tu dis on va pas trouver quelqu'un pour critiquer le début de saison de Wemby, moi il y a un truc qui m'a saoulé, et je vous le dis franchement, j'ai trouvé par moment un peu de nonchalance.
Sur le début de saison, on est tous d'accord.
Je ne sais pas si c'est son physique, son jeu, le fait que les Spurs démarrent une saison sans trop d'ambition, mais j'ai trouvé parfois, je me dis là quand même, c'est bon, là, c'est
Pierrot,
ta première saison, t'es plus rookie, vas-y, rentre-leur dans la gueule.
Pierrot, souviens-toi, aux Jeux Olympiques, on pensait la même chose.
Oui, et puis il y a eu la demi-finale où ça a été un autre match. Quand même.
Mais il paraissait nonchalant aussi, et en début de saison il paraissait hors de forme et il paraissait nonchalant aussi.
Mais est-ce qu'on ne vient pas sur la base de c'est un marathon et pas un sprint la NBA, et que ça ne sert à rien de se griller au début, et que justement son expérience de rookie peut-être lui a fait comprendre que si tu te grilles au début, bah t'es un peu cramé sur la fin, alors que là comme ils veulent aller plus loin, comme ils veulent faire les playoffs, alors encore une fois on n'est pas sûr sur ça.
C'est un mois de plus dans la saison.
Mais il faut peut-être faire plus attention et démarrer un petit peu plus doucement.
Après,
peut-être
que
c'est de la gestion.
Il y a juste quelque chose peut-être qui m'inquiète par rapport au futur match de Victor Wembanyama, c'est que j'ai l'impression que les adversaires maintenant, je vais pas dire qu'ils ont trouvé la clé pour le canasser, mais j'ai l'impression que dès qu'on met un petit teigneux costaud un petit peu à l'image de Dillon Brooks avec le Canada face aux Jeux Olympiques, et ben Victor il sort un petit peu de son match, on va aller le percuter, on va contester tous ses déplacements. Dallas l'avait fait avec Daniel Gafford.
Mais il va s'adapter.
D'accord. Et ben comment on s'adapte à ça?
Alors honnêtement, moi je sais pas, parce que je suis pas Victor Wembanyama, mais rappelle-toi ce qu'a dit Ime Udoka. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter Victor Wembanyama? On fait exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on met un petit, on met Dillon Brooks, on le met dans ses appuis. Mais il me dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Il dit, ça va durer qu'un temps, hein. Parce que Victor Wembanyama est un joueur extraordinaire, extrêmement intelligent, et il va s'adapter rapidement. Donc tant qu'on peut, on en profite, mais ça va pas durer, parce qu'il va comprendre.
En prenant encore plus de tirs à 3 points, du coup, il va s'éloigner du cercle.
Et tu penses qu'un grand aussi fin, il peut s'approcher facilement du cercle sur un petit aussi
costaud? T'as trop vu jouer,
pas du tout, c'est ce qui m'inquiète.
Mais non, mais c'est pas très facile. Okay. Donc il faut du mouvement pour qu'il ait panier près du cercle.
D'accord.
Bon, dernière chose, c'est un pivot, on est d'accord, il bougera plus.
C'est un pivot. Non, c'est un all-around.
Non, mais est-ce que par exemple en équipe de France, il sera 5 ou 4? Vous l'imaginez comment?
Concrètement, moi je fais jouer 5. Évidemment, sauf que c'est pas un 5 comme on a l'habitude, c'est pas un 5 à l'ancien dinosaure qui sort pas à 3 points. C'est un 5 de maintenant, quoi.
Ok. Juste dernier mot avant de passer à la partie historique. Il y a un match qu'on attend avec impatience. Alors ce soir, il joue contre Utah. C'est pas celui-là. C'est le lendemain. C'est les Lakers face à Anthony Davis qui est en feu. Donc je pense que ça peut être sympa à suivre ça, Alex, non ?
Ouais, mais ils sont pas déjà affrontés il y a quelques semaines ?
Si, je crois.
Si, c'était joué.
Ouais. Les deux avaient fait un bon match.
Ouais, les deux. Mais Davis avait quand même bien pourri la vie à Victor.
Plus petit, plus tonique. Plus
ça, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Ouais. C'est un spécial San Antonio Spurs cette semaine dans Basket Time sur RMC. Et on va vous parler d'une légende des Spurs.
The Spurs closed out the New Jersey Nets to win their second NBA championship. David Robinson walked away from the game as only he should a champion.
David Robinson all the way.
Here comes Jordan Robinson back. And he got the block. Now the jam by David Robinson.
Shot clock at four. Up big Nance all the way. Rejection Robinson.
Robinson slicing his way in.
So here we go. Olajuwon again blocked by Robinson and it's over.
Congratulations, David Robinson, 1995 NBA MVP.
Alors, la légende des Spurs, peut-on dire même avant l'arrivée de Tim Duncan, donc le pivot David Robinson. Robinson, qu'est-ce qu'il faut en retenir, Geoffrey Charpille ?
Il faut en retenir beaucoup de choses, Pierrot. Membre de la Dream Team 92, double champion olympique, double champion NBA avec les Spurs, 71 points claqués dans un match, un quadruple-double réalisé en 94. Les performances individuelles et collectives de David Robinson, elles sont nombreuses, très nombreuses. Il faut dire, Pierrot, que l'amiral, il a été drafté en première position lors de la draft 94. Et pourtant, il a pu évoluer qu'en NBA qu'à partir de la saison 89-90, car il devait finir ses obligations militaires dans l'US Navy. L'amiral a donc débarqué avec ses 2m16 à San Antonio et a permis aux Spurs de compter 35 victoires supplémentaires dès sa première année, élu logiquement Rookie of the Year avec 24 points de moyenne. David Robinson, c'est 987 matchs NBA, 21 points de moyenne, 11 rebonds et plus de 50% de réussite au tir et pas qu'à 3 points. Frédéric, David Robinson, c'est un corps athlétique, capable de prendre un rebond, de lancer la contre-attaque et de finir les deux mains dans le cercle. 6 ou 7 secondes plus tard, David Robinson, c'est un gaucher au toucher soyeux qui savait absolument tout faire sur un terrain. En témoignent ses titres de meilleur marqueur, rebondeur et contreur dans l'ensemble de sa carrière. Une polyvalence rare qui lui vaut un titre de MVP en 95. Mais c'est aussi une générosité rare en dehors des parquets, une intelligence notable comme lors de l'arrivée d'un certain Tim Duncan en 97 quand l'amiral Robinson a accepté d'avoir moins de responsabilités pour permettre au jeune Tim d'en prendre lui un peu plus. C'est d'ailleurs grâce à une blessure, de David Robinson que les Spurs en 96 sont médiocres, très très nuls. Et cette année-là, ils arrivent à obtenir le premier pick de la draft suivante, un certain Tim Duncan. C'est également Robinson qui a convaincu Mr. Fundamental de rester à San Antonio après sa saison rookie alors qu'Orlando lui faisait les yeux doux. Et après 14 saisons NBA, David Robinson a quitté la NBA sur un deuxième titre en 2003. Les Spurs ont retiré son maillot avec son numéro historique, le fameux 50. Et en 2009, comme une évidence, il a fait son entrée au Hall of Fame de la NBA en même temps qu'un certain Michael Jordan. Le seul problème dans la carrière de David Robinson, avoir été au sommet en même temps que les Rockets d'Hakeem Olajuwon ou encore les Lakers version Showtime. Et effectivement, sans les équipes, on aurait clairement pu imaginer que l'amiral aurait eu plus de bagues NBA avant de pouvoir jeter l'encre.
C'est ça qu'on aime, justement, Fred. C'est ça qu'on aime, c'est David Robinson, Hakeem Olajuwon.
Oui, il y avait Patrick Ewing, c'était l'époque des pivots, et dans cette époque des pivots, c'était un joueur fantastique. David Robinson était un joueur fantastique pour moi. Quand je pense à, alors je suis cette génération-là aussi, mais quand je pense à San Antonio, moi je pense à David Robinson.
Avant
Tim Duncan, parce que je l'ai connu avant, parce que je l'ai vu faire des choses tellement incroyables. C'était un joueur hyper mobile, hyper musculeux, très technique près du cercle, capable de shooter un petit peu. J'ai regardé tout à l'heure, il a pris 100 shoots à 3 points sur 14 saisons. T'imagines, maintenant, c'est absolument rien du tout.
Ouais.
Il marquait ses points près du cercle, il était très fort physiquement, très bon défenseur, très bon contreur, beaucoup de technique, je me répète, mais surtout très athlétique. Il courait de cercle à cercle à une vitesse incroyable. Franchement, c'est un joueur que j'ai rêvé, mais il avait deux choses que je n'avais pas, le talent et le physique.
Oh, t'avais du talent, quand même.
T'es dur.
Non, dur. Franchement, je crois que les gens ne se rappellent pas du talent de David Robinson. C'était absolument sous-côté. Mais évidemment, maintenant, les plus jeunes, et peut-être même plus les plus jeunes, mais certains plus jeunes que moi, en tous les cas, vont penser à Tim Duncan tout de suite, parce que en termes de talent, c'était incroyable. Et
Tim Duncan, pour certains, il fait partie du top 10 all-time.
Exactement. Sauf que David Robinson, franchement, c'était quelque chose. C'était quelque chose d'assez incroyable.
Bah justement, moi j'entre dans la catégorie où moi c'est, j'ai vu plus longtemps Tim Duncan, donc pour moi les Spurs c'est Tim Duncan, mais en aucun cas, voilà, je suis vraiment conscient de ce que David Robinson a apporté. Et au-delà de toutes les qualités que Fred a citées, je pense que c'est peut-être le plus grand leader aussi que la franchise ait connu, parce que
bien structuré,
il a eu le malheur de s'arrêter voilà, après le titre de 2003, et en fait c'est à ce moment-là que la NBA est devenue quasiment international, ça coïncide avec l'arrivée de LeBron en plus. Oui, il n'a pas eu de bol parce qu'il s'est tapé tous les meilleurs pivots lors de sa génération. Oh oui. Et en plus, la NBA a switché dans un autre monde juste après lui. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne jouit pas de la même image qu'un Tim Duncan.
Alors il y a l'image, mais après, en termes sportifs, est-ce qu'il n'est pas un peu, entre guillemets, hein, Fred, entre guillemets, sous-estimé ? C'est-à-dire que David Robinson, ce n'est pas le premier nom qui vient quand on parle de la légende de la NBA. Tu vois, ça vient derrière les Kobe, les Jordan, les Larry Bird, les Kareem Abdul-Jabbar. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Mais tu vois, déjà, tu m'as cité beaucoup d'extérieurs. Parce que qu'un joueur extérieur, forcément, c'est plus flashy. C'est plus fun à regarder. Et plus, c'est plus facile de s'identifier. Tu as du mal à s'identifier.
Oui, mais j'aurais pu citer Shaquille O'Neal aussi.
Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la plupart des joueurs que tu as cités, c'est extérieur. Ensuite, il faut être un pivot extrêmement dominant pour pouvoir être considéré. Donc, ça veut dire que tu as pensé à qui ? À Shaquille O'Neal, parce que Shaquille O'Neal a eu plusieurs titres. Et ensuite, à Hakeem Olajuwon, qui était à la même époque que David Robinson. Et David Robinson a été MVP d'une saison régulière, alors qu'il jouait contre Hakeem Olajuwon. Donc, il faut... J'ai l'impression qu'il ne jouit pas de cette côte parce qu'il était à cette époque où il y avait tellement de joueurs pivots dominants. Je te dis, il a joué contre Shaq, il a joué contre Hakeem
The Dream. Il faut pas oublier qu'il est dans le système des Spurs qui ne met pas non plus en valeur forcément les individualités.
Le marché des Spurs, c'est un marché particulier, ça ne met pas forcément l'individu en lumière. Donc malheureusement, il a pas joui de ça, mais je t'assure qu'il est dans mon top 5 des meilleurs pivots de la NBA de l'histoire.
De tes joueurs préférés ?
Ouais, mes joueurs préférés aussi.
T'as joué contre lui ?
Non, heureusement.
Tes joueurs préférés, c'est quoi, toi ? Il y a Larry Bird, non ?
Moi, j'ai Larry Bird, j'ai Magic.
J'ai Bill Laimbeer, je crois.
Jordan, j'ai Hakeem Olajuwon, et je pense qu'on ne doit pas être loin d'un Robinson après.
Ouais, Robinson, très bien, bravo. Il fallait rendre hommage à ce grand homme, à ce grand joueur. On finit par le quiz spécial Spurs.
Ça marche.
Est-ce que le fameux AJ Bromlett...
Qui ?
Oh. Ah mais moi j'ai joué contre... Alors par contre, j'ai joué contre AJ Bromlett, il a joué en Espagne pendant longtemps.
J'ai joué contre AJ Bromlett.
Ouais, donc c'était une Bromlett espagnole. Enfin, tu joues.
On a un bras droit hyper profié.
J'ai drafté par Cleveland, 39e position, 99.
Je viens de te le dire, je m'y connais en Bromlett.
Cette saison, qui est le meilleur contreur des Cavs ?
Bernard Fedachin.
C'est nul.
C'est excellent, Pierrot.
C'est nul. Non, c'était excellent jusqu'à la dernière vanne de Steve, là. Bref, bon, c'est pas grave. Alors, le spécial Spurs, messieurs, nous allons commencer par deviner l'identité d'un joueur passé par les Spurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, les indices vont arriver et ça va aller vite, normalement. Alors, c'est un joueur qui est passé par les Spurs, hein, mais qui a commencé au Houston Rockets, où il a été deux fois champion, avec... Hakeem Olajuwon,
Robert Horry.
Bravo. Qui a dit Robert Horry ?
Geoffrey.
Geoffrey ?
Non,
non, mais non. Pourquoi c'est pas crédible ?
Personne s'est jeté pour lui dire arrête.
Alors, quand même, Robert Horry, deux fois champion avec Houston, trois fois avec les Lakers et deux fois avec les Spurs. Incroyable, ce mec, quand même.
Toujours au bon endroit.
Big
bon
shot Rob.
Ouais, ouais, mais décisif souvent, hein. Finalement.
Sur le terrain et dans le
exactement, exact.
Bon, le premier était facile. On en fait un autre ? Oui, vous voulez un autre ?
Bien
premier
sûr.
Point, c'est pour Alex. On cherche un meneur de jeu qui est passé par les Spurs, donc. Un meneur de jeu qui, le 21 mars 2010, délivre 17 passes décisives contre André les Miller. Clippers. C'est son record et c'était sous le maillot des Kings. Les Kings où il était arrivé comme backup de Mike Bibby.
Sean Livingston ?
Non, à qui il a pris la place de titulaire finalement. Un joueur qui n'a pas franchement marqué l'histoire des Spurs, bien que deux fois champion en 2005 et en 2007. Après les Spurs et les Kings, il a joué alors un peu partout, hein, à Milwaukee, à Orlando, à New York, à Memphis, à Miami et à Détroit, avant de finir sa carrière, il n'y a pas si longtemps que ça, saison 2017-2018, aux Žalgiris Kaunas. Oui, en Europe, parce que c'est un Européen.
Oui.
On parle d'un joueur slovène.
Slovène.
Ils n'ont pas.
Non. J'ai
si
pas.
Vous l'avez un peu décoloré. Backup de Tipeee.
Je ne trouve pas.
Oh ouais. Décoloré à sa période de Piston. Mais si, vous l'avez. Vous voulez ses initiales?
Oui.
B-U.
Bob.
Ils l'ont pas.
Bruno.
Ah, c'était plus difficile que Roberto.
Bellaudry. Ça fait 10 minutes que je l'ai sur le bout de la langue.
Ah oui, ça fait 10 minutes. Bah, je sais pas si je te le compte, hein, du coup.
Hein. Oh, si, mais c'est
10 minutes. Tu l'aurais pas retrouvé?
Non.
Vous l'avez oublié, celui-là?
Oui, complètement.
Petite carrière honorable.
Honnête.
Le problème, c'est qu'il est passé après Tipeee, donc c'était dur. Hein. Très bien. Donc, 2 points pour Alex. On va faire un jeu Tim Duncan ou David Robinson. OK.
Pas mal.
Donc, les réponses, ça peut être soit Duncan, soit Robinson.
Soit les deux.
Ça peut aussi être les deux ou aucun des deux. Hein. OK. Alors, on démarre avec Alex. Je suis rookie de l'année.
Je suis
rookie de l'année.
Les deux.
Duncan, Robinson, les deux ou aucun des deux? Tu as répondu les deux?
Ouais.
C'est une bonne réponse. 90 pour Robinson, 98 pour Duncan. Geoffrey, j'ai pris ma retraite sur un titre NBA. Robinson, Duncan, les deux ou aucun des deux?
Uniquement David Robinson.
Absolument, puisque Tim Duncan a pris sa retraite en 2016. Et son dernier titre, c'est 2014. Fred, j'ai fait un quadruple double.
David Robinson.
C'est cadeau, ça. Hein.
Oui.
Ça, c'est le hasard. Hein. Ça, c'est, tu vois, c'est la face, comme on dit. C'était le point cadeau est tombé sur toi.
Oui, c'est pas mal.
J'ai déclaré FIBA sucks.
Tim Duncan.
Bien entendu, Tim Duncan. À quelle occasion, mon cher?
Alors là,
je ne donne pas le point. Hein.
C'était
avant JO d'Athènes.
Ah ouais.
Où ils se sont fait croquer par les Argentins et Duncan n'aime pas, n'a jamais trouvé sa place.
Il a tout de suite dit qu'ils s'en foutaient.
Dans le basket FIBA. Geoffrey.
C'est dommage.
J'ai été meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur contreur lors d'une saison NBA.
David Robinson,
absolument. Et c'est le seul avec Karim Abdul-Jabbar à avoir fait ça tout de même. Ça aussi, c'était cadeau puisque tu viens de nous le dire dans ton papier.
Absolument.
Heureusement que tu as trouvé la bonne réponse. Hein. Non, parce que tu as hésité. À un moment, je me suis dit, mais il est neuneux ou quoi?
Ça revoit un petit peu.
Oui, un peu.
Voilà. Et enfin, Fred, j'ai déclaré, les généraux ne paniquent pas. Du coup, les troupes ne paniquent pas.
Ouais, c'est Robinson, parce qu'il était un Navy, je me dis que peut-être.
Ouais, je te dis que peut-être, ouais, évidemment, voilà. T'es tombé dans le piège, puisque c'est ni l'un ni l'autre. Okay. Il s'agit de Shaquille O'Neal. C'est Shaquille O'Neal qui a dit ça. Évidemment, la référence à l'armée, je me suis dit, s'il y en a un qui va tomber dedans, c'est Fred.
Ouais, évidemment, référence à l'armée, c'est important.
Donc ça fait 4 points pour Alex, 2 pour Geoffrey et 1 point pour Fred. Tim Duncan est le meilleur marqueur de la franchise. Robinson est 3e, mais qui est le 2e?
Bruce Bowen.
Ginobili.
Non plus. Ni l'un ni l'autre. Bruce Bowen, il a dit qui a dit ça. Qui a dit ça?
C'est certainement pas Alex ni Fred, je sais pas.
Moins un. Oh. Alors, je mets un moins un.
C'est dur
en suspens.
Tony?
Si jamais il y a égalité,
ouais,
tu perds. Okay.
Tony?
Comment?
Tony?
Non, c'est pas Tony. C'est pas Tony. Non, c'est une autre légende des sports. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Oui, c'est lui.
Irvin.
Non! Parce que t'as oublié une lettre.
George Gervin.
C'est pareil, je mets un moins un en suspens.
Avec moins un.
Et si vous êtes à égalité, tu perds. Mais ça fait quand même 5 points pour Alex. Hein,
ça ça reste largement le bon gars, en tête. Le bon gars.
Oui, c'est ça.
Bon, l'égalité,
je t'ai donné,
on en est
je t'ai
loin,
donné le surnom du mec en plus.
Ah bon?
T'es dur. Hein.
Bah, bravo. Ah, donc 5 points pour Alex, 2 points pour Geoffrey, 1 point pour Fred. Greg Popovich. On en dit un mot quand même, Greg Popovich.
Bien sûr.
Il a connu une autre franchise en tant que coach. Il a été assistant de quelle franchise, Greg Popovich?
Assistant.
Coach assistant entre 92 et 94.
Une équipe encore actuelle?
Une équipe actuelle. T'as dit quoi, Fred?
Les Lakers?
Non.
Les Bucks?
Les Warriors?
Oui, les Warriors, bravo. C'était l'adjoint de Don Nelson, Fred. Bravo, Fred. On va revenir à l'actualité des Spurs. Lors de ce match contre OKC, là, qui a un peu marqué les esprits, dites-moi, au coup d'envoi, hein, sur le parquet, qui sont les deux pivots titulaires de chaque côté ?
Attends, c'est Golden State contre eux ?
Non, OKC, Spurs.
Il y a Zach Collins.
Bravo.
Et Chet Holmgren.
Non.
Pas du tout.
Non, c'est...
Il venait de se blesser.
Arthur Chagas.
Voilà.
Ah oui.
Non plus, il n'était pas encore revenu.
Aïe. Là, ça va être compliqué.
C'est ça qui est intéressant.
Il jouait small ball, c'était Jalen Williams.
Exactement, bravo. Ils ont joué plusieurs matchs avec Jalen Williams pivot. Qui s'en est très bien sorti d'ailleurs.
Oui, mais en même temps, Jalen Williams, c'est un super joueur.
Il peut un peu tout faire.
Ouais.
J'accorde un point à Geoffrey et un point à Alex et zéro à Fred. Voilà. Alors attention, Sandro Mamukelashvili, le joueur américano-géorgien des Spurs, le premier qui épelle correctement son nom à le point. Nous allons démarrer par Fred. Première chance.
Ne regarde
pour
pas
Fred.
Tes fiches, Frédéric.
Alors vas-y, je t'écoute.
M-U-K-E-L-A-S-H-V-I-L-I.
Bravo. Voilà, t'es pas bon en basket, mais t'es bon en géorgien. T'as un point de plus, Fred. Ça fait 3 points pour Fred, 3 points pour Geoffrey et 6 points pour Alex. Je vous donne une phrase de Wembanyama. Vous me dites de qui il parle. Ouais, c'est pas comme d'habitude, Fred. C'est pas qui a dit ça, c'est de qui
c'est
parle Wembanyama.
Quoi.
Non, je pense même que c'est plus simple. J'ai une confiance aveugle en lui. Stéphane Cassel.
Geoffrey.
Bravo, Geoffrey.
Merci.
C'est très bien. Normalement, Alex a gagné ce match, puisqu'il a 7 points.
Avec que des demi-points en plus.
Et Fred en a 3. Il reste la question multi-points. Mais franchement, je ne peux pas accorder 7 points. Je ne peux pas accorder 4 points pour ça. C'est trop, Fred. Je vais réfléchir à comment je vais faire. Vous allez me donner les 7 Français qui ont porté le maillot des Spurs.
Waouh.
Vous allez me le faire aux enchères. Combien êtes-vous capable de m'en donner ? Fred, c'est toi qui démarres. Vas-y.
5,
c'est bien, bravo Geoffrey.
Je vais jamais au-dessus de 5, c'est impossible.
Alex.
Pareil, 5 c'est trop.
Ah Fred, si tu me donnes, ils ont pas augmenté. Si tu me donnes les 7, t'as gagné le quiz. Si tu me donnes les 7, tu as gagné le quiz et franchement c'est hyper facile. C'est hyper facile. Ne te mets pas de pression, mon grand.
Boris. Nando.
Oui.
Tony.
Oui.
Miami.
Oui.
Geoffrey Lauvergne.
Oui.
Il y en a 5. J'avais
t'en
dit 5.
T'en manques 2.
Ouais, mais pour gagner. Mais j'en veux 7 pour que tu sois champion, pour que tu aies ta bague.
7. Oh, attendez.
Il y en a 5.
Il y en a un qui joue maintenant, Sissoko.
Bah voilà. Ouais.
Et ensuite.
Mais le dernier loustic, c'est qui?
Attends, le dernier, j'ai pas.
Ah non,
j'en peux plus.
C'est exceptionnel ce que t'es en train de faire. C'est exceptionnel.
Tu mérites de gagner, Fred.
C'est le plus beau moment de l'année de Basket Time. Je te jure que c'est vrai. J'aurais
Fred.
Imaginé ça.
C'est très simple.
Sissoko et Miami avant lui, quoi.
Les gars, je fais exprès.
Ah bien sûr.
Depuis le début.
Oui.
C'est Victor Wembanyama.
Non, tu l'avais déjà dit.
Bravo Fred. Bravo. Je sais que t'as pas fait exprès, mais t'as quand même gagné ce quiz. Bravo. C'est exceptionnel. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.